Salut à tous, ici Nozman, est-ce que vous allez bien? En ce moment, on entend pas mal parler d'une technologie qui pourrait complètement révolutionner le monde de l'énergie, c'est les centrales à fusion. Est-ce que ça vous parle? Actuellement, les centrales utilisent le principe de fission, et là, c'est de la fusion dont on parle. Quelque chose qui pourrait décupler totalement l'énergie produite. Je pense que vous avez entendu parler du fait de privilégier le programme écologique de vos machines, régler votre chauffage à 19 degrés, limiter la taille de sa télé, débrancher votre box wifi la nuit, tout ça. Donc ces conseils de sobriété énergétique, on les a tous vus, lus ou entendus. On a tous décidé de les intégrer plus ou moins dans notre daily routine, j'espère, pour lutter contre les problèmes climatiques actuels. Mais pendant qu'on perfectionne notre portefeuille de bonnes pratiques, eh bien les chercheurs, eux, s'activent pour nous dégoter une énergie qui pourrait s'inscrire dans un monde décarboné. Et depuis une centaine d'années, ils ont une piste, celle de la fusion nucléaire. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Que diriez-vous d'un mode de production d'énergie qui produit à masse égale 4 millions de fois plus que les énergies fossiles? D'un mode de production qui pourrait durer des milliers et des milliers d'années, vu que sa matière première est quasi inépuisable. D'un mode de production qui, lors de la conception d'énergie, ne dégage pas de gaz carbonique, et donc pas de gaz à effet de serre, hein, d'un mode de production qui n'est pas associé à des déchets hautement radioactifs de longue durée, et toujours mieux, d'un mode de production qui n'est pas associé à un risque d'accident majeur type Tchernobyl. Donc là, je suis pas en train de vous faire un pitch un peu pété d'une pub mensongère pour je sais pas quoi. Non, en fait, ça, ce que je viens de vous dire, c'est juste les promesses, a priori, de la fusion nucléaire. Un formidable outil de production d'énergie rendu possible par l'exploitation de la force la plus intense de la nature. L'interaction nucléaire dont l'énergie de liaison en représente la puissance. Car cette énergie qui assure la cohésion au sein d'un noyau atomique, eh bien, nous savons la libérer. D'abord en cassant des noyaux lourds. Ça, c'est la fission nucléaire. Mais aussi en fusionnant deux noyaux légers, car cette réaction va provoquer la création d'un noyau plus lourd. Mais aussi le dégagement d'une partie de l'énergie de liaison sous forme de chaleur ou de lumière. Et ça, c'est la fusion nucléaire. Et alors quand je parle d'une partie de cette énergie de liaison, sachez-le, à quantité de réactifs égale, la fusion nucléaire produit 4 fois plus d'énergie que la fission. Car avec seulement quelques grammes de réactifs, eh bien, en théorie, il est possible de produire autant d'énergie qu'une personne en utilise pendant 60 ans dans un pays développé. Donc oui, a priori, cette histoire de fusion nucléaire, ça fait rêver quoi. Et cette idée de solution miracle, d'ailleurs, c'est du ciel qu'elle nous est tombée. Ou plutôt des étoiles même. Alors oui, mauvaise nouvelle pour les Aztèques, il y a 500 ans, ils se sont un peu plantés. Car son énergie, le soleil, il ne l'attire pas des sacrifices humains. Non, lui, son énergie, justement, il la tire de la fusion. Imaginez, chaque seconde, c'est 600 millions de tonnes de noyaux d'hydrogène qui fusionnent en son sein. Soit à peu près toute l'énergie que consomme l'humanité en une année entière. Ouais, parce que concrètement, cette manip qui se passe au cœur de l'étoile, en fait, elle donne naissance à des noyaux d'hélium très chauds et aussi à des neutrons de très très grande énergie. Et ça, même si à la base, ces noyaux d'hydrogène, ils ne devraient pas s'unir. Non, en fait, ici, on parle quand même de marier deux noyaux qui, je le rappelle, ont toujours une charge positive. Et je sais pas si vous avez déjà essayé de rapprocher la charge positive de deux aimants, bah, en fait, c'est pas si facile. C'est même un peu dur quand même. C'est la même chose que je viens de dire d'ailleurs là. Sauf pour le Soleil, qui lui, comme les autres étoiles, possède en fait tous les éléments nécessaires à la fusion. En fait, pour réussir cet exploit, il n'a pas le choix le Soleil. Même lui, il doit suivre la recette. Voici la petite recette pour une bonne fusion. Le premier ingrédient d'une bonne fusion, c'est que votre matière, c'est sous forme de plasma qu'elle doit être. Donc le quatrième état de la matière après l'état solide. En fait, dans cet état qui compose intégralement cette énorme boule de plasma, en fait, eh bien les électrons, qui, grâce à leur charge négative, sont habituellement situés autour du noyau, sont libérés de l'attraction positive du noyau. Mais ça, c'est que le début. Car l'étape d'après, c'est juste de vaincre cette fameuse répulsion ultra puissante. Et la solution, on la connaît, c'est de pousser ces noyaux de charge positive à s'agiter pour qu'ils aient plus de chances de s'unir. Et ça tombe bien pour le Soleil, dont la température peut atteindre au centre les 15 millions de degrés Celsius. Car dans le plasma, l'énergie cinétique, elle est liée à la température. Ça, c'est le second ingrédient. Mais il en faut encore un troisième, dans lequel notre Soleil excelle totalement. C'est la densité qui a pour rôle d'augmenter les probabilités de rencontre. Du coup, oui, ça fait pas mal de facteurs, je vous l'accorde, mais des facteurs qu'on arrive tout de même à mimer sur Terre. Enfin ça, même si pour nous, avec l'hydrogène, c'est quand même trop difficile. Du coup, c'est plutôt sur le deutérium et le tritium qu'on mise. Deux cousins de l'hydrogène qui ont juste, en gros, plus de neutrons, donc de charge neutre que lui. Et le truc plutôt pas mal, c'est que eux, on en a un max. Le deutérium, c'est simple, vous prenez 1 mètre cube d'eau de mer, et hop, vous avez déjà 30 grammes. Et le tritium, c'est en bombardant du lithium avec des neutrons qu'on l'obtient. Un métal lui aussi ultra abondant dans la croûte terrestre. Ouais, je vous avais dit que sa matière première était quasi inépuisable. Et du coup, il y a quelques mois, c'est grâce à cette nouvelle recette un petit peu adaptée qu'une grande première a pu être réalisée. Nous sommes le 5 décembre 2022, et avec le National Ignition Facility, un immense laser américain doté de 192 faisceaux, un tir chargé de chauffer une capsule remplie de deutérium et de tritium vient d'être réalisé. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsque la capsule est devenue suffisamment chaude, eh bien la couche externe du matériau a explosé, entraînant une compression du deutérium et du tritium devenu plasma. Et là, tranquillement, la fusion du deutérium et du tritium a pu commencer, libérant au passage 3,15 mégajoules. Et surtout un gain d'énergie par rapport à la mise de départ pour la première fois de notre histoire. Ouais, parce que sur la cible, en fait, c'est seulement 2,05 mégajoules d'énergie qui ont été transmis. Et ça, c'est ce qu'on appelle la fusion par confinement inertiel. Une technique pas hyper vieille, parce que il fallait déjà inventer les lasers, qui consiste en fait à porter à très haute pression un petit volume de plasma dans un temps très court. Donc une grande première, mais que de nombreuses personnes ont relativisé. Car ok, il y a eu un gain, c'est vrai. Mais dans les faits, pour injecter ces 2,05 mégajoules à ce petit volume, c'est 400 mégajoules qui ont été utilisés pour faire tourner les lasers. Et dans le domaine de la fusion nucléaire, c'est plutôt une autre tech, un peu plus ancienne, qui bénéficie de la majorité des recherches. Son nom, le confinement magnétique, qui prend place, lui, dans un tokamak. Ouais, vous savez, cette installation qui a la forme d'un donut. Par contre, le goût et la taille, c'est pas ça. C'est pas un donut, attention. Sa mission à lui, le tokamak, c'est plutôt d'empêcher le plasma à température de fusion qu'il contient de toucher ses parois. Et s'il y arrive, en fait, il va perdre une bonne partie de sa chaleur. Et du coup, vous, c'est vos réactions de fusion que vous allez perdre. Du coup, pour y arriver, le tokamak, c'est sur son côté magnétique qu'il compte. Car en fait, le plasma, il a une faiblesse. C'est qu'il est composé d'un max d'ions et d'électrons qui les rendent sensibles à ce côté magnétique. Et du coup, ben, grâce à ça, vos parois, ils ne s'en rapprochent pas. Problème, en raison des instabilités créées par la guerre entre la pression due au plasma et celle du champ magnétique, eh bien cette technique n'autorise que des faibles densités. Résultat, il faut compenser avec un max de chaleur favorisant l'énergie cinétique. Pour le deutérium et le tritium, c'est par exemple 150 millions de degrés. Voilà. Du coup, voilà, tranquille, c'est 10 fois celle du soleil. Mais bon, calme, hein. Par contre, vos fusions, elles peuvent commencer à balancer leur hélium, mais surtout leurs neutrons de grande énergie. Et comme ils n'ont pas de charge électrique, eux, eh bien c'est aux parois qu'ils vont délivrer leur chaleur. Parois dans lesquelles circule un fluide, fluide qui, une fois devenu vapeur, actionnera les turbines. Et avec tout ça, eh bien, vous obtenez l'électricité. D'ailleurs, bonne nouvelle, dans les années qui viennent, là, cette nouvelle tech, elle va avoir droit à son labo expérimental format XXL. Car en fait, à Cadarache, en France, le projet International Thermonuclear Experimental Reactor, ou ITER pour les intimes, est en train d'être mis sur pied. Et lui, vraiment, genre c'est annoncé, ce sera juste la plus grande et la plus puissante des machines de fusion par confinement magnétique jamais confectionnées. Un réacteur qui bénéficie de la mobilisation de 35 nations. En fait, ouais, ils se sont rendus compte qu'en solo, la fusion, fallait un peu l'oublier, quoi. C'est un truc, c'est compliqué. En fait, l'objectif de cette immense machine, il coûte giga cher. Vous en doutez, son objectif, c'est pas d'enfiler des perles. Non, c'est juste de prouver la faisabilité scientifique et technique de la fusion nucléaire à grande échelle. Ouais, rien que ça, c'est vraiment un but ambitieux. Mais un but qui sera considéré comme atteint lorsque nous serons capables, avec seulement 50 MW, d'en extraire en continu pas moins de 500. Et 500 MW, à titre d'info, c'est bien sûr x10 par rapport à la mise de départ. Mais c'est aussi comparable à la production d'une centrale à charbon moyenne. Du coup, c'est assez stylé, voilà, comme but, hein, vraiment. Mais ce qui est encore plus stylé, c'est que ce projet devrait permettre de donner naissance à l'horizon 2050 au premier prototype de réacteur à fusion industrielle. Nom de code du projet, Démo. Bon, par contre, le calendrier, selon pas mal d'observateurs, il sera pas si simple que ça à tenir. Déjà parce que les premières expériences de fusion complète d'ITER sur lesquelles Démo doit s'appuyer, eh bien c'est pour 2035 qu'elles sont prévues. Et ensuite parce que sur Terre, la recette de la fusion, elle est un poil plus compliquée que dans les étoiles, tu vois. Car vous en doutez, pour qu'elle soit commercialement viable, eh bien c'est pas par 10 que doit être multipliée la mise de départ, non, on est sur un autre level. C'est vraiment par beaucoup plus. Et ça en plus sur de longues durées, tu vois. Du coup, dans ce domaine, les défis techniques, vous imaginez bien qu'ils sont nombreux. À commencer par notre capacité à maintenir cette température de fusion en continu. Je pense que vous l'avez compris, si de simples parois peuvent arrêter la réaction, c'est que notre température de fusion, elle n'est pas facile à maintenir stable. Et ça encore plus quand on sait que ce plasma chargé est parcouru d'un max d'instabilité. Et si c'est plutôt pas mal pour éviter un grave accident quand même, et ben ça nous complique quand même un petit peu la vie. Car les tokamaks, ils sont pas encore assez optimisés pour stabiliser le plasma H24, tu vois. Et c'est loin d'être le seul point sur lequel les scientifiques doivent encore bosser. Car le tritium, sa caractéristique, c'est pas uniquement d'être un produit de fission du lithium. Non, c'est aussi d'avoir une demi-vie assez courte. En seulement 12 ans, sans rien faire, c'est déjà la moitié des noyaux de tritium qui disparaît. Une fast life qui lui permet de ne pas présenter de grands dangers, mais aussi une fast life qui nous contraint à avoir des stocks limités. Du coup, pas le choix. Pour tourner nos centrales à fusion, c'est leur propre tritium qu'elles vont devoir confectionner. Et si c'est possible de le faire grâce à une couverture de lithium entourant le plasma, eh bien, cette tech n'a jamais été démontrée à l'échelle. Et enfin, il reste encore le souci des déchets. Car souvenez-vous, la promesse de la fusion, c'est de les éradiquer, en fait, les déchets. Et pour le moment, on n'y est pas en fait, voilà. C'est dit, car ok, l'hélium-4 produit par la fusion n'est pas un radioactif, par contre, à force d'être bombardé par des neutrons, eh bien les parois, elles le deviennent. Un boulot est donc à faire pour trouver le matériau idéal. Celui qui sera donc capable, face à des neutrons de très haute énergie, de tenir le coup niveau propriétés mécaniques et physiques pendant des durées très 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 longues. Du coup, voilà, on l'a compris, hein, ça fait quand même pas mal de défis à relever, pas mal de défis en plus dont je n'ai même pas fait la liste exhaustive, il en reste d'autres, hein, vraiment. Un tas de défis donc que les scientifiques s'évertuent à relever. Car pas de doute, a priori, la fusion, c'est une technologie d'avenir. Une technologie d'avenir qui pourrait devenir un jour une ressource d'énergie illimitée, vous imaginez? Sans risque majeur et sans déchets radioactifs à stocker, a priori. Le souci, c'est que le réchauffement climatique, c'est un problème du présent. C'est maintenant et tout de suite, quoi. Et même si on parvenait à avancer, je sais pas comment, la date de création du premier démo à seulement genre 10 ans, soit 2033, bah il serait déjà un peu trop tard en fait. Car selon le GIEC, c'est dès les années 2030 que la température pourrait avoir fait plus 1,5 degré Celsius. Et selon l'expert à qui on a parlé pour cette vidéo, cette technologie disponible pour tout le monde sur la planète, c'est même après notre mort qu'elle pourrait arriver. Du coup, si la fusion est certes une technologie d'avenir, c'est plutôt celui d'un monde qui aurait déjà été décarboné. Ok, c'était un gros morceau cette vidéo encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu vraiment. En ce moment, on s'attaque vraiment à des gros trucs, mais c'est trop bien. Je tiens à remercier Emmanuel Galichet, enseignante-chercheur en physique nucléaire pour le CNAM, pour son aide durant l'écriture de cette vidéo. C'est toujours très précieux vraiment de pouvoir discuter avec des spécialistes dont c'est le domaine et le métier pour l'écriture des vidéos, donc merci à vous toutes et tous. C'est vraiment génial parce que comme ça, bah, les vidéos sont backées, elles sont relues, elles sont revues, enfin, c'est trop bien, merci. Je vous rappelle aussi que la liste des intervenants sont systématiquement dans les descriptions hein, de toutes les vidéos, comme ça vous avez vraiment le listing des personnes à qui on a parlé. C'est à chaque fois des personnes différentes qui sont volontaires et tout, donc vraiment, encore une fois, merci à vous. Ok, j'espère que cette vidéo sur la fusion, sur l'avenir de cette technologie vous a intéressé, vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, voilà, ça aide vraiment. Merci la communauté, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir, un petit commentaire, on vous lira comme d'habitude. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt, à la prochaine, car comme d'habitude, la science n'attend pas. Salut !